Boomerang avec le cinéaste culte de Trainspotting, La Plage ou Slumdog Millionnaire dont le nouveau film part d'une éventualité folle mais délicieuse. Et si vous vous réveillez un jour et que personne à part vous-même ne connaissait l'existence des Beatles, ça s'appelle Yesterday, Danny Boyle est en Boomerang, évidemment. Donc il faut que je vous dise, je suis tombé sur un étrange objet dans un magasin de touristes pas loin de la maison de la radio, la tour Eiffel dans une bouteille. Et j'ai pensé à cette expression, vous savez, avec des si, on pourrait mettre Paris en bouteille. Cette expression qui devenait soudain très étrange puisque j'avais littéralement sous les yeux Paris en bouteille. Si bien que l'expression prenait un tout autre sens, avec des si, on aurait quelque chose d'étrange mais de tout à fait probable. Et en l'occurrence, quelque chose d'assez beau. La Seine est un ruban teint en bleu ici. Il y a de tout petits arbres minutieusement sculptés, bien plus que dans la réalité, qui sont posés au pied de cette tour en papier mâché. Si Paris était en bouteille, se pourrait-il qu'elle en soit sublimée? Et si, c'est le principe de l'Uchronie, vous savez, cette porte qui s'ouvre dans l'imaginaire par la grâce d'une supposition qui semble impossible. C'est l'utopie dans l'histoire. Qu'est-ce qui se serait passé si un tel n'avait pas existé? Si une telle n'était pas morte sur un bûcher? Si l'Amérique n'avait pas été trouvée? Si Jésus avait survécu? Avec des si, plus encore que de mettre Paris en bouteille, on peut faire le pari d'une nouvelle histoire. C'est-à-dire du plaisir infini du récit pour le récit. J'en viens à douter ce matin, du coup, de toutes ces expressions qui brident l'imaginaire. Vous connaissez par exemple cette expression? Si ma tante en avait, on l'appellerait mon oncle.
Boomerang, boomerang. Augustin Trapenard.
Bonjour à tous et bienvenue dans Boomerang. Combien de fois mon invité d'aujourd'hui a-t-il commencé une phrase, un film ou un rêve par « et si ». Depuis le succès de Trainspotting il y a plus de 20 ans ou de La Plage, vous vous souvenez, il a été couronné par deux Oscars pour Slumdog Millionaire. Son nouveau film Yesterday, en salle le 3 juillet, raconte l'histoire d'un musicien qui se réveille dans un monde où il est le seul à se souvenir des Beatles. C'est autant un hommage aux quatre garçons dans le vent qu'une célébration du 7e art et une grande comédie romantique aussi. Bonjour Danny Boyle.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Et si, est-ce que ce n'est pas le meilleur point de départ pour une histoire ?
Bien sûr, parce que c'est une invitation instantanée, lancée au public, à participer. Vous en faites un complice dans le partage de ce rêve. Parce qu'on peut absolument tout faire au cinéma, c'est ce qui est extraordinaire avec le 7e art. On peut tout faire et cela reste une forme vivante, c'est pas comme un tableau. On dispose de beaucoup de ficelles, la caméra vous permet 1000 possibilités et le cinéma vous permet de présenter ce qui est en fait votre vision du monde.
Alors quels sont les plus grands et si, les plus folles uchronies qui vous aient traversé l'esprit en tant que cinéaste?
Je me souviens quand on a commencé à travailler sur un projet que tout le monde appelait, mais moi je m'y refusais, le film de zombies, un film qui s'appelle 28 jours plus tard, qui avait un point de départ extraordinaire. Et si le monde, nous on a pris le centre de Londres, se retrouvait dépeuplé? Et l'autre point de départ pour moi, c'était, et si les zombies ne se déplaçaient pas lentement, avec leur démarche de zombie, et s'ils pouvaient courir vraiment vite, et s'ils avaient beaucoup de force? On avait donc compilé les « et si » pour ce film, et c'est un bon exemple de ces « et si » avec lequel on plonge les spectateurs dans une situation que la caméra concrétise et qui serait impossible à imaginer, une ville dépeuplée.
Et les plans de Londres désertés dans 28 jours plus tard en font un film quand même assez extraordinaire. « Et si les Beatles n'avaient pas existé ?» Danny Boyle, c'est le point de départ de votre nouveau film « Yesterday ». Alors un monde sans Beatles, ça ressemblait à quoi?
Il y a un personnage dans le film qui dit « Le monde serait misérable ». C'est presque impossible à imaginer. Précisément. Car leur musique est partie prenante de notre histoire. Depuis 60 ans.
Oui, de quoi sont-ils le symbole?
Pour moi, à la fin de notre film, on voit la photo de quatre jeunes filles qui crient. À l'époque, elles avaient été traitées d'hystériques. L'établissement, l'ordre ancien en Grande-Bretagne, les accusait d'être des obsédés sexuels, des folles, des clowns. Et la Beatlemania allait sonner la fin de la civilisation. Mais ces filles, qu'est-ce qu'elles faisaient? Elles annonçaient le changement. Elles nous disaient, le monde est en train de changer. Ces quatre garçons-là, enfants d'une ville ordinaire, Liverpool, vont changer le monde, et ils l'ont fait. Petit à petit, ils ont dit, nous n'allons pas nous enrôler dans votre armée, ni prendre les emplois que vous nous attribuez, nous allons parler d'amour, de plaisir, d'expression, de culture. Et nous allons construire un système économique tout autour. Ça vous empêchera de nous traiter de feignants, de hippies, de pauvres types qui ne veulent pas travailler. Nous allons établir un nouveau système économique mondial. Et ce système économique, aujourd'hui, c'est lui qui pilote tous les autres dans le monde. Nous avons évité les guerres le plus souvent, et si une guerre surgissait comme au Vietnam, les Beatles exprimaient leur aversion. Nous avons conjuré la malédiction de la première moitié du XXe siècle, c'est-à-dire la guerre mondiale.
Quand est-ce que vous les avez découverts, vous, Danny Boyle, les Beatles ? Par quel titre ? Vous vous souvenez ?
Moi, j'ai une sœur jumelle. Quand on était au lit, au premier étage, mes parents se passaient les 45 tours d'époque avec « Please, please » ou « Love me do ». On était censé dormir, mais on faisait semblant d'être les Beatles dans notre lit, en grattant des guitares imaginaires. Ma sœur jumelle, elle était amoureuse de Paul, comme toutes les filles, parce qu'il était mignon. Moi, je faisais John. Et notre cadette, Bernadette, qui devait avoir 4 ans, elle pouvait faire George ou Ringo, peu importe.
Si vous étiez devenu musicien et pas cinéaste, quel genre de musique est-ce que vous auriez fait, tiens, vous, pour qui la musique est si importante, on le voit dans tous vos films.
La période charnière, pour moi, ça a été le punk rock. Clash, pour moi, leur grand album d'ailleurs, London Calling, a beaucoup de points communs avec Abbey Road, avec une variété incroyable de formes musicales. Il expérimente le reggae, le rockabilly, et plein de genres musicaux. Je vois vraiment un lien entre Lennon-McCartney et Mick Jones, Joe Strummer, qui écrivait les chansons des Clash.
Oh, I believe in yesterday.
Qu'est-ce que t'as écrit ça?
C'est pas moi, c'est Paul McCartney qui a écrit ça, les Beatles.
Hein? Qui?
John Paul, George and Ringo, the Beatles. No.
Arrêtez!
Yesterday.
Yesterday.
Une des plus belles chansons qu'on ait écrites.
C'est pas Coldplay, c'est pas fiction.
Is it just you writing the songs?
Yes.
But is it?
I don't know.
Yesterday, Danny Boyle, c'est donc l'histoire d'un musicien qui n'a pas vraiment de succès et qui, après un accident, se réveille dans un monde où il est le seul à se souvenir de l'existence des Beatles. Jouer leurs chansons va lui permettre de devenir une superstar. Mais indirectement, ce qu'il fait, c'est quand même de transmettre un patrimoine, de faire en sorte que ces chansons continuent d'exister. Qu'est-ce que vous avez l'impression de transmettre, vous, en réalisant vos films ?
Wow.
Alors je pense pas qu'on puisse voir son propre travail comme ça. Parce qu'on est préoccupé par les côtés techniques de ce qu'on produit. Pour que ce soit efficace et fort autant que possible. Mais clairement, une des fonctions de l'art, c'est de transmettre les reliques des époques révolues aux nouvelles générations. Dans l'espoir que ça les inspire, que ça les encourage. Ce que je crois par-dessus tout, et ce film est un hommage secret aux enseignants, car les deux héros du film sont des profs. Et moi, je suis très passionnément persuadé que plus que les artistes, ce sont les enseignants qui sont ceux qui transmettent l'âme d'un peuple à la nouvelle génération. Et quand je vois notre monde d'aujourd'hui et le genre de politique dont nous héritons, la seule consolation qu'on peut trouver, c'est que les véritables valeurs de la société sont transmises aux nouvelles générations par les enseignants, pas par les politiques.
Mais vous n'êtes pas enseignant, Danny Boyle, vous êtes cinéaste. Quel art est-ce que c'est le cinéma pour vous, en fin de compte ?
Oh, well, for me,
pour moi, c'est l'art le plus immersif, le plus exceptionnel, à cause de son usage du temps. Il propose une équation, un échange, un marché dans lequel vous, le spectateur, vous me donnez à moi, le réalisateur, 2 heures de votre temps, exclusivement. Et nous, les réalisateurs, nous prenons ce temps pour l'étirer, le transformer, le raccourcir, le rallonger. Nous le ralentissons, nous l'arrêtons, nous le reprenons. Nous avançons dans le temps. Nous passons à une temporalité parallèle, comme dans ce film à un moment donné. Et on propose aux gens de vivre ce temps-là, pendant les 2 heures qu'ils nous accordent. Aucun autre art ne peut faire ça.
Vous vous souvenez, Danny Boyle, où enfant, vous avez vécu vos premiers chocs de spectateurs ? Vous vous souvenez de votre première salle de cinéma.
Comme je vous l'ai dit, j'ai une sœur jumelle. On devait avoir 8 ans, 9 peut-être, et on est allé au cinéma. Ma mère a amené ma sœur voir La Mélodie du Bonheur. Et mon père m'a emmené voir La Bataille des Ardennes, le film de guerre.
Famille très genrée, s'il en est.
Complètement, vous pouvez tout de suite voir l'éducation super genrée. Et j'étais subjugué par cette expérience, dans les tripes, quoi, de ce film de guerre, quoi. Subjugué. Et plus tard, j'ai vu La Mélodie du Bonheur, et j'ai rencontré Robert Wise, son réalisateur. C'était un réalisateur très sous-estimé, metteur en scène extraordinaire. J'adorais ses films. Il faut remarquer que ces deux films sont un exemple de ce que je disais tout à l'heure, le changement que les Beatles ont initié. Avant les Beatles, la culture britannique, la culture mondiale, restait obsédée par la guerre. Même 15, 20 ans après la fin de la guerre, on faisait toujours des films sur la guerre. C'est de là le son, le deuxième très clairement, mais La Mélodie du Bonheur parle aussi du nazisme. Ça montre bien ce à quoi les Beatles ont voulu mettre fin. Arrêtons de vivre dans l'ombre de la guerre. Il faut voir la jeunesse comme autre chose que de la chair à canon destinée à mourir au combat. C'est un bon exemple de ça.
L'individu et le collectif, à vous entendre, ça me fascine parce que, en fait, c'est assez intéressant, la relation entre l'individu et le collectif. C'est ce que vous interrogez volontiers dans tous vos films, Danny Boyle. Je pense à Trainspotting, évidemment, mais aussi à La Plage, à Slumdog Millionnaire, à Steve Jobs aussi. Qu'est-ce qui fait pour vous un bon personnage de cinéma, justement?
J'ai tendance à me spécialiser dans des personnages qui cherchent à surmonter l'insurmontable, en s'alliant avec une force qui peut être l'amour de leur vie, comme dans Slumdog Millionaire ou dans ce film, ou avec un collectif. J'ai tendance à refaire le même film encore et encore. J'ai longtemps pensé que je tournais des films très différents, volontairement, en changeant de ton, en variant les genres, en empruntant des chemins différents. Mais en fait, c'est toujours le même film, encore et encore. L'histoire d'un héros, c'est d'habitude un homme, bon, désolé, mais voilà, je suis un mec, qui supplante l'insurmontable pour obtenir un triomphe dans lequel nous nous reconnaissons tous. C'est toujours ce genre de parcours. Ça peut être des parcours difficiles, avec des étapes terribles, mais ce sont des personnages profondément exaltés qui avancent vers leur triomphe. Voilà.
Ce film archétypal de Danny Boyle, qu'on a vu encore et encore sans les images, on s'est dit que ça ressemblerait à quelque chose comme ça.
Choose life, choose a job, choose a career, choose a family. Choose a fucking big television. Choose washing machines, cars, compact displays and electrical tin openers.
Un kilomètre.
Deux.
Richard.
Je sais pas, je suis américain.
En comptant miles, c'est pas en kilomètre. Ok, alors combien de miles, c'est à ton avis?
D'un autre côté, si on ne sait pas, on saura jamais.
Je pars à la recherche d'autre chose. Qui circule en ce moment à propos d'une plage
sur une île où personne ne peut aller.
If you can't trust your friends, well, what then? What then?
Does a boy from the slums know all the answers?
Remember, if you answer wrong, you lose everything. Just like this.
Let it go!
And the Oscar goes to Danny Boyle.
Quand est-ce que vous avez su, Danny Boyle, que vous consacreriez votre vie au cinéma?
J'ai commencé à l'école. On se réunissait le matin pour la prière, et les curés, qui dirigeaient l'école, nous encourageaient à préparer de petits spectacles avant les cours. Et moi, je m'occupais de les organiser. C'est ça le boulot d'un réalisateur, en fait. On organise. Toi, tu fais ci, toi, tu fais ça, toi, tu dis ça. On mène les gens à la baguette. Et c'était des spectacles assez subversifs, assez anticléricaux. J'étais assez dans la provoque.
Donc ça n'a surpris personne quand vous êtes devenu cinéaste ?
Non, personne ne s'est dit surpris. J'ai bénéficié d'une sorte de tolérance. J'étais le seul garçon dans la famille. J'ai l'impression qu'on me donnait une liberté que mes sœurs n'avaient pas, malheureusement. J'ai eu le droit de me lancer dans une carrière artistique. À l'université, j'ai commencé à mettre en scène, à jouer sur scène d'abord, et puis je me suis rendu compte que j'avais pas envie de jouer, j'avais envie de diriger. Et puis, je suis entré à la télévision pour ensuite tenter le cinéma.
Et dans quelle Angleterre est-ce que vous avez le sentiment d'avoir grandi, Danny Boyle ? L'Angleterre de votre enfance à Manchester, elle ressemblait à quoi ?
Ce qui a été vraiment décisif, c'est l'arrivée de la culture pop. Je viens d'un milieu ouvrier et d'une culture industrielle qui était en train de disparaître et qui perdait ses certitudes. Pendant des années, il y avait eu du travail pour tout le monde, les fils reprenaient le poste de leur père, on faisait un apprentissage, des choses comme ça. Mais on était sous un gouvernement travailliste qui mettait l'éducation en avant. Et moi, j'ai pu sortir de mon milieu grâce au système éducatif. Mes parents m'ont encouragé à étudier. Et puis, je suis arrivé à entrer à l'université, ce qui a été décisif pour moi. Dans mon milieu, la plupart de mes copains d'école, ils sont restés dans la même ville. On se rend compte à quel point les gens se retrouvent coincés dans leur région.
Et mine de rien, l'Angleterre, vous nous en parlez en creux hein, dans Yesterday, à travers le portrait que vous faites de cette petite ville de Gorleston dans le Norfolk, sur la côte Est, une ancienne ville balnéaire, très cotée, qui semble être tombée en désuétude. Qu'est-ce qu'elle nous raconte d'aujourd'hui, cette ville ?
C'est une ville magnifique, qui avait beaucoup de succès à l'époque édouardienne. Quand les gens prenaient le train pour la première fois, pour aller passer quelques jours à la mer, la plage est splendide. Et puis elle est tombée en désuétude. Ce sont les vacances pas chères en Europe, surtout en Espagne, quand elles sont apparues, qui ont attiré les ouvriers. Et la ville est tombée dans l'oubli. C'est un peu une ville fantôme. Si vous écoutez les chansons des Beatles, elles sont pétries, elles sont gorgées de passion pour ces villes fantômes en Angleterre. Beaucoup de leurs chansons nomment des lieux précis. On y trouve une légère nostalgie, comme une petite complainte, de cette Angleterre oubliée. Une chanson comme Yesterday, on y retrouve l'émotion des poètes britanniques. Wordsworth, Coleridge, Byron, Keats, ces grands poètes anglais. Paul McCartney est complètement l'un d'eux, vraiment.
Hier, aujourd'hui, demain, dans la musique, mais dans quelle mesure est-ce que le cinéma a quelque chose à voir avec le temps, pour vous, avec le temps qui passe ?
Ils sont énormément liés. On peut faire des films qui s'extraient de leur temps, dans l'espace par exemple, des films qui inventent leur propre géographie, complètement fictive. Les films tournés en studio créent un décor qui est entièrement maîtrisé par le chef décorateur. Et la plupart des films, et certainement ceux que moi j'aime tourner, ce sont des films tournés, eux, en décor naturel. On trouve un lieu, ça peut être en Bombay en Inde ou San Francisco pour le film sur Steve Jobs. Et votre rôle en tant que réalisateur, c'est de vous rendre dans ce lieu et de découvrir en quoi l'histoire émane de ce cadre particulier. Il faut arriver à trouver le lien entre les habitants de ce lieu, le passé de ce lieu et l'histoire que vous allez raconter. Cette histoire doit jaillir d'un terrain réel et concret. Au cinéma, le réalisme est une notion essentielle, même dans les films basés sur l'imaginaire. Ce réalisme, nous en avons tous besoin pour y croire. Nous attendons du comédien qu'il exprime une vérité. Nous le jugeons sur ce critère. Oui, je crois ce qu'il dit. Oui, il est crédible. Et cette vérité, elle vient, je pense, d'un lien très concret avec le terrain de l'histoire qu'on raconte.
On va continuer à en parler de lieu, évidemment, mais de temps aussi, Danny Boyle, juste après la chanson des Beatles qui donne son titre à votre film et dont vous dites volontiers qu'il s'agit de l'un des plus beaux titres jamais écrits. Ça fait toujours tellement de bien de l'écouter. C'était en 1965 sur l'album Help. Vous êtes sur France Inter avec Danny Boyle. Vous écoutez Boomerang, Yesterday.
Yesterday.
All my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly I'm not half the man I used to be. There's a shadow hanging over me. Oh, yesterday came suddenly. Why she had to go, I don't know. She wouldn't say. I said something wrong. Now I long for yesterday. Yesterday, love was such an easy game to play. I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. Why she had to go, I don't know. She wouldn't say. I said something wrong. Now I long for yesterday. Yesterday, love was such an easy game to play. I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday.
Boomerang sur France Inter. Augustin Trapenard.
Ah, il n'a pas vraiment une tête de Beatles, hein. On l'imagine plus facilement dans un groupe de punk New Age, les cheveux teints en rose, dressés sur sa tête avec du vernis noir et des boucles d'oreilles talisman, le menton un petit peu pointu, le bout du nez rond, l'œil qui pétille derrière ses lunettes rectangulaires, quelque part entre l'ancien boxeur poids léger et l'elfe farceur, avec son petit costume gris, bleu marine. Ce matin, le réalisateur britannique Danny Boyle, invité de Boomerang pour Yesterday, en salle le 3 juillet prochain. L'histoire improbable, on le disait, d'un musicien qui, après s'être fait renverser par un bus, se retrouve dans un monde où les Beatles n'ont jamais existé et qui va s'approprier leur titre pour se hisser au sommet. Et votre film, Danny, comme très souvent chez vous, il commence sur les chapeaux de roue. Qu'est-ce qui fait pour vous une bonne scène d'ouverture?
So, David Lean.
David Lean disait qu'il faut annoncer l'ambition du film dès le tout début. Que c'est un élément très important du marché, de l'échange que vous proposez au public. Mais il y a un dicton parmi les monteurs qui dit que l'important dans un film se résume à deux choses. Le début et la fin. Et le début, pas tant que ça. C'est vraiment la fin qui est le plus important. C'est intéressant parce que cela décrit un cheminement, un arc dramatique qui est celui du personnage central, du début à la fin. On suit le personnage, mais c'est aussi le cheminement de votre film, de son début à sa fin. Les débuts explosifs, moi, ça m'a toujours attiré. J'ai envie, dans les premières minutes du film, de vous faire sursauter. Et de choisir... Au cinéma, on a cette chance. Les spectateurs, en général, ne vont pas sortir de la salle pendant la durée du film. Mais j'aime bien les défier dès le tout début. Comme pour leur dire, ça, vous ne l'avez jamais vu.
Mais à quel moment de votre processus de création est-ce que vous savez quelle sera votre scène d'ouverture?
Toujours au tout début. Le début du film est d'habitude le point de départ de votre propre implication de réalisateur dans le projet. Le début, vous le voyez très clairement, cette porte d'entrée dans le film. C'est pas seulement pour le public que vous visualisez un début, c'est votre propre introduction au film que vous matérialisez. Et dans ce film sur les Beatles, il fallait que ce soit cette catastrophe, ce blackout mondial qui survient, pendant lequel un bus percute un cycliste. Ça, je l'ai vu immédiatement. Et puis, on est allé visiter Galston, la ville dont vous parliez tout à l'heure. Cette toute petite ville oubliée dans le Norfolk. Et on est tombé sur une salle de bingo et on s'est dit, ça, il nous la faut. Avec toutes ces petites lumières de salle de bingo. Donc on enrichit sa première vision, mais cette vision, elle est là depuis le tout début du travail.
Justement, qu'est-ce qui fait la force d'une image de cinéma pour vous, Danny Boyle?
I think it has a visceral...
Il faut qu'elle provoque sur vous une réaction viscérale. Ce n'est pas une image dont vous êtes simplement spectateur. Je veux que vous ressentiez cette image, qu'elle vous secoue littéralement en votre fort intérieur. Ça peut être un élément visuel, ça peut être violent, ça peut être la force du son ou la musique.
Vous vous souvenez de la fois où vous avez été le plus ébloui par une image de cinéma, vous ?
Clairement. C'est le début d'Apocalypse Now, le napalm dans la jungle. Au début d'Apocalypse Now, ça a marqué ma mémoire au fer rouge.
De cette scène si importante, si fondatrice pour vous dans votre cinéma, Danny Boyle.
Oh my God, it remains as an ambition to.
Il en reste une ambition, d'essayer d'approcher la qualité de ce film, d'approcher le voyage sensuel qu'il propose au public.
Et oui, je vous pose la question parce que c'est aussi ce dont parle votre film, le choc lorsqu'on découvre pour la première fois un chef-d'œuvre. Je pense à l'émotion des amis de votre héros lorsqu'ils entendent Yesterday pour la première fois et qu'ils semblent tous absolument bouleversés. La beauté, Danny Boyle. Quel effet est-ce qu'elle produit sur vous ?
Elle me transfigure complètement. Et j'y crois plus que tout. Il y a des croyances qui nous encouragent, nous, les hommes et les femmes. Et là, je ne parle plus de cinéma. Les croyances qui, auparavant, ont été la religion, où tout le monde se rassemblait pour croire en Dieu, ou alors croire en la guerre, ou croire en l'argent. La croyance qui a tout changé, la plus précieuse, c'est la culture. La croyance dans l'art, dans l'expression artistique, dans l'expression personnelle et dans le bien-être qu'elle procure. C'est la plus importante des croyances car c'est la seule qui ne sait pas se défendre. Voilà pourquoi il faut se battre pour la culture. Elle ne se défendra pas toute seule. Les autres croyances, par contre, la religion s'est toujours défendue. L'argent s'est toujours préservé, mais pas la culture, qui est pourtant celle qui vous transforme. Parce que c'est elle qui vous encourage à aller vers l'autre, pas vers un personnage mystique qui n'existe pas comme la religion, pas pour détruire, mais pour encourager le développement par l'échange. La beauté, ça se partage.
Et entre nous deux, Danny Boyle, de quel cinéaste aimeriez-vous que le monde perde la mémoire pour que vous puissiez vous en approprier les films ?
Ce serait sûrement Francis Ford Coppola, parce que je suis obsédé par Apocalypse Now. C'est le sommet de tout ce qui a pu être fait au cinéma, Apocalypse Now. Et puis, pour Coppola, c'est un homme qui est bon. Quand vous lisez les choses sur les réalisateurs des années 70, cette période extraordinaire où se rencontraient la sensibilité européenne et le pouvoir d'Hollywood, c'était une fusion parfaite dans les années 70, c'était florissant. Mais ces réalisateurs, ce n'étaient pas des gentils. Vraiment pas. Mais lui, c'était un homme bon et bienveillant qui traitait bien les gens. Si vous voulez être cinéaste, avec le pouvoir et les privilèges que cela donne, si vous arrivez à être bon et bienveillant, comme Coppola, c'est que vous avez choisi le bon exemple.
C'est assez passionnant. Ça voudrait dire que le chef-d'œuvre, pour vous, il relève aussi du bien, Danny Boyle.
Yes. And I can acknowledge that there are many masterpieces.
Oui, et je reconnais que bien des chefs-d'œuvre ne sont pas nés dans ce contexte-là. Ça, c'est une question complexe à aborder. Mais quand ces films viennent d'un cœur bon, comme celui de Coppola, alors le monde va mieux.
Merci infiniment, Danny Boyle, d'être venu faire un tour dans cette émission. Merci à votre interprète ce matin, le très Beatles, Harold Manning. Je rappelle que Yesterday, avec Himesh Patel, Ed Sheeran, Lily James, Kate McKinnon sort le 3 juillet. Et c'est fort réussi, avec en prime une excellente bande-son. Ça ne se refuse pas. Tout de suite, les médias. Sonia De Villers, juste après ça.
Tête à demi-penchée, faisant une moue dubitative. Semi-remorque, les fous prennent tous les risques. Les fluves de l'arène me fait bouillir. J'ai le cœur au combat, même en temps de crise. Les effets de l'adrénaline me défendent mes affaires câlines. J'ai pas idée combien l'accès au palier va me faire pâlir de vertige. Mais ce soir, je veux me délecter hilar de cet élan qui ne s'arrête plus. Les vertiges, donc ce soir. Je veux me délecter hilar de cet élan qui ne s'arrête plus. À l'horizontale, je te propose qu'on à l'horizontale. On pourrait peut-être à l'horizontale. Puis on verra si à l'horizontale. À l'horizontale, je te propose qu'on à l'horizontale. On pourrait peut-être à l'horizontale. Puis on verra si à l'horizontale. Sur ma clavicule, légèrement tournée vers ma nuque pour que mes yeux te bougent. Que ta bouche coule parfois jusqu'au bout de mon menton et m'embrasse très tendrement. Avec toi, j'ai tout mon temps, les bras m'entourent. Mais tantôt, je ne dis rien car ça me va bien d'être envoûté par tes tentacules. J'ai pas de fascicule pour savoir comment m'adonner à cette sainte donation de nos corps entremêlés. Faudrait-il faire attention à l'horizontale? Je te propose qu'on à l'horizontale. On pourrait peut-être à l'horizontale, puis on verra si à l'horizontale. À l'horizontale, je te propose qu'on à l'horizontale. On pourrait peut-être à l'horizontale, puis on verra si à l'horizontale. Tu voulais la mer, donc je te l'ai donnée. Les draps trempés, c'est pas que pour la scéno, moi je suis polisson. Tu me regardes en souriant. Le baiser a fait le beau car je vois bien comme il t'a eu. Je suis rentré sans frapper, c'est une mauvaise habitude. L'approche a cédé à l'accroche qui s'est agrippée sans litige. À plus tard, on se rappelle. Si je te crois, je te connaîtrai. J'ai même espoir qu'on se reconnecte.
Aloïs Sauvage à l'horizontale. Et tout de suite, c'est l'heure des médias. Sonia De Villers, l'instant M.